Slate Podcast.
Il y a beaucoup de petits et de gros mots sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots. Parce que c'est intime, parce qu'on pense que c'est un peu sale, parce qu'on a peur du regard de l'autre, professionnel ou pas. Bénins, ils gâchent un peu la vie. Plus grave, ils peuvent évoluer en maladie à surveiller. Ces questions gênantes, vous nous les envoyez et c'est nous qui les posons à votre place à des médecins qualifiés. Questions gênantes, proposées par l'application Livy, le centre de santé digitale qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation. Depuis le premier confinement, Vincent a du mal à sortir, même pour voir ses amis. De plus en plus isolé, il s'inquiète. Nous avons consulté pour lui Ellie Winter, psychiatre libérale à Paris.
La première question, c'est de savoir est-ce que c'est très grave ou pas si grave que ça. Est-ce que la personne dit « j'ai du mal à sortir et aller voir des amis » et en réalité, hier, il était chez un ami, avant-hier, il était chez ses parents, il a passé le week-end avec des copains, il a du mal à le faire, mais il le fait. Et donc, bon, on peut causer, il y a des choses importantes, mais c'est pas une urgence. Ou est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne sort plus du tout de chez lui, qui n'a plus aucun contact avec l'extérieur, et qui a trouvé la force inouïe de faire une téléconsultation à ce moment-là? En ce moment, c'est vraiment la téléconsultation qui ressort, parce que sur l'ordinateur, c'est quand même accessible, un petit clic ici ou là. Et allez, il a tenté sa chance, il est au bord du gouffre. Et quelqu'un, dans ce cas-là, peut nécessiter une hospitalisation, par exemple. Il s'agit d'abord d'évaluer, est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de penser que c'est tellement horrible tout ce qui se passe, qu'il vaut mieux mourir tout de suite, voire même, il faut épargner des souffrances au monde entier, on va appuyer sur un bouton nucléaire pour que tout le monde meure tout de suite pour ne pas souffrir. La folie psychiatrique peut aller très loin. Est-ce que c'est quelqu'un qui était déjà paranoïaque avant, s'imaginait déjà que on lui envoyait des ondes, des toutes sortes de dangers sur sa route pour le persécuter à longueur de journée, et maintenant on lui envoie le Covid comme par hasard. Quelqu'un qui dit comme par hasard, de manière trop répétée, c'est louche. Eh bien, à ce moment-là, on se dit, oh là là, c'est quelqu'un qui va très mal et qui va pas s'en sortir tout seul. Déjà, première étape, évaluer la gravité. Et puis là, c'est une question où il y a plusieurs diagnostics possibles. Est-ce que c'est quelqu'un qui déprime? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des phobies, qui a peur de tout et n'importe quoi, d'attraper le Covid éventuellement, mais éventuellement plutôt de le transmettre en disant « moi si je l'attrape c'est pas grave, mais j'ai peur de le transmettre à quelqu'un d'autre, et à cause de moi quelqu'un pourrait être malade et donc la culpabilité l'emporte, et pour éviter la culpabilité il vaut mieux rester enfermé chez soi ». Est-ce que c'est un mécanisme obsessionnel, quelqu'un qui avait déjà des tocs de lavage et qui l'a dit « oh là là, mais alors maintenant, déjà que j'essayais de tout laver, toujours tout bien, de me laver les mains, de pas toucher les poignées de porte, les barres de métro, etc. Alors là, comment je vais faire? Parce que il y a un danger supplémentaire, je ne serai jamais à la hauteur de tout ça. Donc c'est trop compliqué, donc je reste chez moi. » Il y a des dimensions diagnostiques comme ça qu'il faut évaluer. Et là, sur un point d'appel comme ça, un peu tous les diagnostics de psychiatrie sont possibles. Il y a une étape nécessaire là-dessus, de gravité d'un côté, et puis de voir s'il y a une ou plusieurs catégories de diagnostics auxquelles ça correspond.
Et qu'est-ce que ça peut révéler, justement, un comportement où on s'isole? Qu'est-ce que ça dit d'une personne d'avoir envie de s'isoler, de ne plus voir même les personnes qu'on est censé apprécier?
C'est quand même avant tout, en premier lieu, un signe dépressif. Si on a un ami comme ça, on a envie de lui dire « allez, viens ». Viens chez moi, je vois que tu t'isoles, mais me fais ressentir de la tristesse quand je pense à toi dans cette situation. La tristesse que je ressens, c'est sûrement un petit peu la tienne. Viens, moi aussi, de toute façon, je m'emmerde un peu seul chez moi. Y a pas mal de gens qui font des choses comme ça en ce moment. Et puis bon, il faut faire la part des choses entre le réel. Il y a des jeunes qui viennent de passer le bac, qui sont là une année de fac où ils voient très peu de monde, où ils n'ont pas l'occasion de rencontrer, de connaître des nouvelles personnes, puisque à la sortie du bac, dans un nouvel univers où on ne voit pas les gens, où on peut pas parler entre les cours, on peut pas s'échanger des feuilles, des cahiers, des machins. Effectivement, c'est vite difficile, en tout cas, triste et déprimant. Il y a aussi tous les gens qui sont dans des situations réelles, économiques, qui les mettent en danger, des effets réels. Et puis il y a des gens qui sont dans une sécurité matérielle, leur emploi n'est pas en danger, ou ils sont retraités et vaccinés, donc on pourrait se dire « allez, ça va maintenant », voilà. Mais on se laisse emporter par des choses tristes du monde. Quand on se laisse plutôt emporter par les choses pessimistes que par les choses optimistes, là encore, bah souvent c'est qu'il y a des cicatrices mal refermées, que c'est l'occasion de revenir dessus et que à ce moment-là c'est intéressant justement de pouvoir consulter un psy, psychiatre, psychologue, déjà au moins un psy, après l'orientation se fera s'il y a besoin de changer, pour voir ce qu'on avait réussi à tenir bon jusque-là et puis qui craque à cette occasion. C'est vrai pour le Covid, mais c'est vrai pour les burn-out aussi, c'est vrai pour quantité d'événements de la vie, les séparations, tout ce qui tenait bon, mais ne tient plus à l'occasion d'un événement, et qui peut être l'occasion de s'intéresser à pourquoi j'ai des mécanismes qui se répètent, pourquoi je redéprime souvent, est-ce que il y a des choses qui vaudraient le coup que je m'intéresse à moi-même.
Est-ce qu'il peut y avoir des étapes à suivre pour se remotiver ou est-ce qu'il faut se lancer d'un coup ?
La règle principale, c'est de chercher comment faire. Je me mets là dans un état d'esprit où, même si ça met 3 jours, 1 semaine, 10 semaines, 3 mois, n'importe, mais je vais m'en occuper, je vais trouver la réponse. Donc, souvent, on a besoin d'aide pour ça parce que, justement, quand on est dans cette situation, on ne sait pas. Après, qu'on utilise un protocole ou un autre, il y a des gens, il faut y aller carrément. Mais il faut pas se mettre dans une impasse, quand même. Dans un truc, on va juste se casser la figure, avoir mal, et du coup se renfermer encore plus. C'est la limite. Mais si on peut relancer, allez, je sais que j'ai un groupe d'amis qui a une maison à la campagne et qu'on peut être tous ensemble là-bas, ça me fait un peu peur, mais j'y vais, voilà. S'il y a toutes les chances que ça marche, si les amis sont bienveillants, si, voilà, pourquoi pas. Sinon, l'important, c'est de chercher et de dire, tiens, là, j'ai raté, ça n'a pas marché, donc qu'est-ce que ça m'apprend, comment je vais faire pour y arriver quand même. Effectivement, ça peut être crescendo, c'est très bien de le faire crescendo avec un ami qui vous tient la main, qui tout le monde est masqué, voilà, et puis petit à petit, voir dans quel cas on peut sortir un peu plus longtemps, ou aller quand même dans un magasin, faire les courses le samedi après-midi dans un supermarché, ou chercher toutes les pistes possibles. Mais l'important, c'est de tenir bon, il est normal de rater. Souvent, quand on a des angoisses ou qu'on déprime, on veut pas faire quelque chose parce que ça ne va pas marcher, comme si c'était à ce moment-là la fin de l'affaire. On peut s'autoriser à essayer quelque chose et rater 10 fois. C'est pas grave, ça. Entre rester chez soi ou rater 10 fois, au moins quand on rate, on apprend des choses. De pouvoir réessayer et mettre dans le protocole qu'on envisage que oui, il y aura des échecs. C'est pas le problème.
Est-ce qu'on peut se servir des solutions médicamenteuses comme d'une solution ponctuelle pour, entre guillemets, relancer la machine?
Pour des gens chez qui c'est trop grave, on peut leur parler de tout, on a l'impression que le cerveau est éteint, et que oui, à ce moment-là, on va gagner du temps, très clairement, en mettant des médicaments, soit des médicaments de court terme, pour calmer l'angoisse, juste le temps de sortir. L'important à ce moment-là, c'est de voir ce qui s'est passé en sortant, de voir que le monde ne s'est pas écroulé. Sinon, on se met à croire que c'est le médicament qui permet que le monde ne s'écroule pas. Non, on est allé voir que le monde ne s'écroule réellement pas, et on avait besoin d'un médicament pour accepter d'aller le voir tellement on avait peur, mais constater qu'on s'est trompé. Et puis, on peut avoir besoin de médicaments à plus long terme, plutôt des antidépresseurs, pour aider à relativiser, effectivement, à relancer un peu la machine. Alors là, c'est le psychiatre qui doit évaluer quel médicament est nécessaire, si un médicament est nécessaire, et avec ces médicaments, il est toujours entre eux, faut pas les banaliser. On prend pas un antidépresseur pendant au moins 6 mois, qui va mettre 1 mois à marcher, qui est un médicament d'usage assez courant, mais il y a des choses auxquelles on fait attention. On prend pas un médicament comme ça pour tout et n'importe quoi, parce qu'on a un petit état d'âme. Mais faut pas non plus le dramatiser. Si on doit en prendre, on peut le faire, tant qu'il y a un médecin qui coordonne ça. Et s'il y a un médecin qui sait comment on utilise ces médicaments, ça peut aider à prendre du recul, dédramatiser. Et là encore, dans le comprimé lui-même, il n'y a pas la solution. Il y a une aide, un peu de l'huile dans les rouages, un peu une façon de prendre du recul. Encore faut-il s'occuper de la solution, voir que c'est une période formidable où il y a plein de gens qui ont des projets fantastiques pour que la société fonctionne autrement, lancer des nouvelles start-up, faire du social, faire de l'art, de la culture, etc. Et plein de gens ont des super projets. C'est inouï, une période comme ça, dans la version optimiste. Évidemment, on peut voir tout le côté noir, tout ce qui ne marche plus, qu'on aurait aimé que ça marche encore, parce que sinon, il faut changer, et changer, c'est difficile, mais c'est quand même passionnant.
Et je pense que la plupart du temps, on a peur que ces médicaments-là créent une sorte de dépendance et qu'on ne sache plus fonctionner sans, en particulier, si on imagine que le contexte ne risque pas de s'améliorer.
D'abord, faut différencier la dépendance qu'on a avec les calmants. Un calmant, c'est un médicament d'usage court pendant quelques semaines, pas trop. Et plus on l'utilise longtemps, moins il marche et plus on en a besoin et bon, ça fatigue et ça. Voilà. Donc ponctuellement, c'est un très bon médicament, mais pas à long terme. Il faut différencier ça de l'antidépresseur qui donne pas des dépendances. Mais par contre, il aide à prendre du recul, et si pendant ce temps on n'a rien changé, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, quand il n'y a plus le médicament, on n'a plus le recul, et on se retrouve comme avant. C'est-à-dire que le médicament juste ne marche plus. Si vous avez mal à la tête, parce qu'il y a une maladie chronique, que vous prenez du Doliprane, ça ne guérit pas votre mal de tête, ça fait que vous ne le sentez pas, et si, au bout d'un moment, vous arrêtez le mal Doliprane, parce que vous avez l'impression que vous êtes plus malade, eh ben, vous retrouvez votre mal de tête. Vous n'êtes pas dépendante au Doliprane, pour autant. C'est pas exactement la même chose. L'enjeu de ces médicaments, c'est que ça aide à reprendre le contrôle de ses pensées. Quand on est complètement abruti par l'angoisse, par la dépression, qu'on n'arrive plus à réfléchir, on se met à tourner en boucle, on ne réfléchit pas vraiment, on fait pas une pensée élaborée qui permet de prendre du recul et de trouver une bonne solution, de changer de point de vue, de comprendre des interactions qu'on ne comprenait pas. Sous médicaments, on peut plus facilement faire ça. Avec une psychothérapie, on est censé faire ça, mais effectivement, à condition que le cerveau soit suffisamment actif pour. Et à ce moment-là, avec ces médicaments, on avance plus vite. C'est ça qui est le plus important. C'est ce qu'on va faire de travail psychothérapeutique pendant ce temps-là. Mais la plupart de ces médicaments sont prescrits par des généralistes qui n'ont pas le temps ni la formation de faire des psychothérapies. Et il se trouve que souvent, le travail se fait naturellement. Et au bout d'un moment, les gens arrêtent quand même ces antidépresseurs. Et pendant ce temps-là, ont déjà avancé sur beaucoup de choses. Tant mieux. Mais quand ça marche pas, quand les gens ont vraiment besoin de garder les médicaments, c'est qu'il y a un problème qui est toujours pas réglé. Et effectivement, il y a des gens qui gardent des années des médicaments comme ça. On se dit que c'est quand même très dommage. L'enjeu de ces médicaments, c'est toujours de, au moment où on les prescrit, de réfléchir à qu'est-ce qui permettra de les arrêter. Comme quand on prescrit un arrêt de travail, c'est pas un traitement pour la vie. C'est là, aujourd'hui, vous avez besoin de vous reposer. Mais réfléchissons d'emblée à comment on va faire pour que vous retourniez au travail, que vous repreniez une vie normale, épanouissante, heureuse, avec plein de joie, de bonheur. Comment reprendre la vie normale?
C'était Questions gênantes, le podcast qui pose les questions à votre place, proposé par Livy, le centre de santé digitale, qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation et produit par Slate.fr.